suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons répondre à toutes vos questions au sujet de deux causes majeures de déficience visuelle, la cataracte et le glaucome. La cataracte, quand la lentille de l'œil, le cristallin, devient opaque. Le glaucome, une maladie silencieuse qui détruit progressivement le nerf optique. Des affections oculaires différentes en termes de symptômes comme de prise en charge, c'est ce que nos invités vont vous expliquer au cours de l'émission. Deux maladies de l'œil, mais un message unique à faire passer, celui du dépistage essentiel pour éviter un diagnostic à un stade avancé. Dans le cas du glaucome en particulier, une prise en charge précoce et un suivi régulier peuvent préserver le nerf optique d'une atteinte irréversible. Car il faut le rappeler, cette maladie, liée le plus souvent à une hypertension oculaire, constitue la seconde cause de cécité dans le monde. Protéger ses yeux, diagnostiquer et prendre en charge la cataracte et le glaucome. Vos questions à notre numéro WhatsApp au 33 7 71 18 46 41. Protéger ses yeux, y compris quand on avance en âge, quel traitement existe pour ces deux pathologies? Dans quel cas l'opération est-elle recommandée? Dans les studios de RFI avec nous, docteur Christophe Orso. Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous êtes ophtalmologue et neuro-ophtalmologue et responsable de l'unité fonctionnelle d'ophtalmologie à l'hôpital européen Georges Pompidou à PHP à Paris. On va retrouver tout à l'heure en ligne du Congo le professeur Freddy Nganga Ngabou, ophtalmologue au CHU de Brazzaville, professeur à l'université Marien Ngouabi. Et puis un sujet qui revient régulièrement dans l'actualité médicale en France, les ruptures d'approvisionnement en médicaments, un problème qui concerne aussi des médicaments en psychiatrie comme la quétiapine, situation sur laquelle alerte le professeur Antoine Pellissolo, chef du service de psychiatrie au CHU Henri Mondor de Créteil en région parisienne.
Priorité santé sur RFI.
Alors on va, si vous le voulez bien, commencer par distinguer ces deux maladies oculaires au centre de notre émission du jour, glaucome cataracte, et pour bien comprendre, docteur Orso, il faut connaître simplement l'anatomie de l'œil.
Oui, la cataracte, c'est comme vous l'avez dit, l'opacification du cristallin. Ce n'est pas en soi, dans la majorité des cas, une pathologie, c'est un signe de vieillissement. La cataracte est une pathologie, enfin est un vieillissement classique qui survient quasiment chez tout le monde, alors à un âge variable, on va dire après 60 ans dans la majorité des cas. Il faut différencier les cataractes congénitales, qui sont quelque chose de différent, qui apparaît chez l'enfant à la naissance ou dans les premiers mois de vie, et qui peut avoir un retentissement sur le développement de la vision, et développement de la vision qui étant terminé à 6-7 ans, si on n'a pas pris ça en charge assez tôt, ce sont des enfants qui, toute leur vie, auront une très mauvaise vision. Mmh. Le glaucome, comme vous l'avez dit, c'est une atteinte du nerf optique. C'est finalement un problème de dégénérescence du nerf optique. Dans la grande majorité des cas, c'est une pression dans l'œil qui est trop élevée. Mais il existe également d'autres pathologies dans lesquelles c'est la perfusion du nerf optique qui n'est pas bonne. Par exemple, quand on a des plaques d'athérome, des problèmes au niveau de la carotide. Mmh. C'est beaucoup plus rare. Dans la grande majorité des cas, c'est un tonus oculaire élevé, ce qui facilite le dépistage.
Alors, pression de l'œil, on sait qu'on prend la pression quand on calcule l'hypertension artérielle. C'est la même chose ou ça n'a rien à voir?
Alors, c'est une pression, mais ça n'a rien à voir. Mmh. Il n'y a pas de lien. On peut avoir un glaucome sans avoir d'hypertension artérielle et vice-versa.
Lésion du nerf optique, opacification du cristallin. Si on parle des symptômes ou des signes d'alerte, on va commencer par la cataracte, vieillissement de l'œil, opacification. Ça veut dire que ça se voit, une cataracte?
Alors, non,
pas forcément.
Quand elle est très, très, très avancée, le cristallin va devenir jaune ou blanc, donc on peut le voir. Mais dans la grande majorité des cas, les patients on dessine, ils vont vous dire qu'ils sont gênés par la lumière, ils sont photophobes, ils commencent à voir moins bien, à avoir une baisse d'acuité visuelle, ils peuvent avoir des petites déformations un petit peu des images. C'est pas gênant et au début, on n'y fait pas très attention. Et quand vraiment cela devient invalidant, on peut opérer.
Alors le glaucome, là, on parle souvent d'une maladie silencieuse de l'œil.
C'est une maladie malheureusement totalement silencieuse. Et il y a un autre facteur qui est extrêmement péjoratif, on va dire, c'est que nous avons deux yeux. Les atteintes du champ visuel liées au glaucome sur un œil ne sont pas au même endroit sur l'autre œil, ce qui fait qu'on ne s'aperçoit pas qu'il commence à y avoir des petits déficits du champ visuel de chaque œil. C'est quand ils deviennent très importants, à un stade avancé, qu'ils commencent à se recouvrir l'un d'un œil sur l'autre et qu'on s'aperçoit des dégâts.
Alors, tout à l'heure, on a parlé du facteur de l'âge. Pour la cataracte, Flavien de Bangui, en Centrafrique, demande à partir de quel âge ? Parce que vous avez parlé, évidemment, de ce glaucome, de ce problème, la cataracte, chez les sujets jeunes. Si on regarde les statistiques, dans la plupart des cas, c'est vraiment chez la personne âgée ?
Ah oui, oui, ouais. Oui. On va dire que dans 95-97% des cas, c'est la personne âgée.
Le glaucome, là aussi, facteur de l'âge ou pas ?
Facteur de l'âge, oui, également. Ça augmente avec l'âge, mais ça peut être plus précoce. On peut, à 40 ans, commencer à avoir un glaucome. Et c'est pour ça que la presbytie est intéressante, parce que les gens sont obligés d'aller consulter l'ophtalmo pour leur prescription de lunettes de prêt, on prend la pression, on s'aperçoit qu'elle est élevée et on commence à traiter.
On va prendre tout de suite un premier auditeur, on part pour le Cameroun.
RFI à Yaoundé.
Gabriel, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour madame. Bonjour docteur.
Alors,
bonjour monsieur.
Vous êtes âgé aujourd'hui de 55 ans, vous a diagnostiqué un glaucome quand précisément ? Vous aviez quel âge ?
Oui, à l'époque j'avais 47 ans, donc ça fait aujourd'hui 8 ans.
Ouais. Et dans quelles circonstances ? Pourquoi vous êtes allé voir l'ophtalmo pour ça ?
J'étais voir l'ophtalmo parce que j'avais la conjonctivite.
Ouais.
Et à l'occasion, il a fait un check-up banal, quoi. Ouais. C'est alors que j'étais dépisté, glaucomaté.
D'accord. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de symptômes comme on vient de l'expliquer. Vous aviez un autre problème oculaire. C'est un hasard de circonstances. Et en termes de sévérité de ce glaucome, qu'est-ce que vous a dit le spécialiste ?
Bon, le spécialiste m'a dit que j'étais atteint à 85% pour l'œil gauche et 90% pour l'œil droit. Pourtant, j'ai une vue qui semble normale, quoi. C'était un peu surprenant.
Ça vous a étonné ? Vous prenez un traitement pour ça ?
Oui, je prends un traitement quotidien, deux fois par jour, matin et soir.
Et en termes de vision, donc ça veut dire pour l'instant vous n'avez pas eu de perte.
Je n'ai pas eu de perte apparemment, parce que j'ai une vue normale, voilà, j'apprécie, je lis bien. J'ai juste le verre de lecture. Donc en ce qui concerne la vue, je n'ai pas de verre pour ça.
D'accord.
Et voilà quoi. Donc.
Alors vous avez des questions à poser à notre invité, je vous en prie, allez-y.
Bon, j'ai une question. J'entends souvent parler d'intervention chirurgicale. Je voudrais savoir à quel moment c'est nécessaire. Parce que, voilà, je ne sais pas si je suis concerné. Et si oui, sera à quel moment. Et dans quel but aussi.
D'accord. Christophe Orso, docteur, justement, la recommandation d'intervention chirurgicale, c'est bien sûr, j'imagine, quelque chose qui se discute avec le médecin qui nous suit. Et dans quel cas c'est recommandé ?
Alors, c'est recommandé quand le traitement médical ne fait plus effet ou qu'il y a des difficultés pour prendre le traitement médical. C'est un traitement qui permet de baisser la pression intraoculaire. La date de ce traitement est difficile à déterminer. Il y a des grandes variations suivant les équipes. Globalement, il est recommandé quand on commence à avoir des difficultés avec le traitement médical, qu'il est insuffisant, qu'il devient gênant. Et il y a soit une chirurgie classique, soit du laser.
Aujourd'hui, chez vous, Gabriel, le recours à ces collyres, c'est quelque chose qui fonctionne bien ?
Oh, ça a été recommandé par le médecin et je l'applique au jour le jour.
Oui.
Bon, ça a été fortement recommandé et on m'a dit que si j'arrête, je peux retrouver la cécité totale. Donc, ce qui fait que je suis vraiment assidu. Mmh. Je prends mon colis le matin et le soir. Mmh.
Donc, c'est quelque chose qui est vraiment recommandé à Dr Orso.
Ah oui, hein. Tout à fait. Ouais. Il ne faut absolument pas arrêter les traitements médicaux, sinon la pression dans l'œil remonte et il y a, enfin, l'aggravation du nerf optique se poursuit.
Alors, vous aviez aussi, Gabriel, une dernière question qui concerne un autre sujet, mais toujours lié au glaucome. Allez-y, je vous en prie.
Oui, en fait, j'en ai encore deux. La deuxième, c'est quoi? C'est que je veux savoir s'il y a une hygiène alimentaire ou comportementale recommandée ou un glaucomateur de façon à stopper la progression de la maladie. Mmh.
Non, rien n'a été démontré de ce côté-là. Il n'y a pas de régime particulier. Il n'y a vraiment que le traitement médical et ou la chirurgie qui permettent de traiter, de stabiliser le glaucome.
Gabriel, vous aviez une autre question?
Oui, j'ai une dernière, s'il vous plaît. J'aimerais savoir ce qui pousse la maladie à progresser malgré le traitement. Parce que apparemment, même avec le colis, il arrive qu'on tombe en cécité totale. C'est le cas de mon voisin qui a été diagnostiqué. Voilà, il s'est mis sous traitement. Et aujourd'hui, il est pratiquement aveugle.
Cette dégénérescence, qu'est-ce qu'il explique?
Alors, le fait qu'il y ait un problème de pression, ça écrase les vaisseaux de la tête du nerf optique, donc il y a une ischémie, il n'y a pas assez de sang qui arrive, et les fibres optiques sont très sensibles à cette absence de sang.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir à un moment donné, pour certains patients, où le collyre va être moins efficace?
Alors, il y a des échappements, sans qu'on sache exactement pourquoi et sans qu'on puisse le prévoir, et c'est pour ça qu'il y a un suivi régulier qui est fait pour vérifier si la pression ne remonte pas. Et quand la pression remonte, eh bien, on ajoute un deuxième collyre, un troisième collyre, où on passe à la chirurgie. Mais si le suivi est bien fait, si le traitement fonctionne bien, il n'y a pas de risque d'aggravation. Et c'est pour ça qu'on recommande aux gens de vraiment bien suivre leur traitement régulièrement. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de risque d'évolution vers la cécité.
Et on l'a bien compris, c'est ce que fait Gabriel. Un grand merci à vous. Merci pour votre participation. Docteur Orso, on va retrouver d'autres auditeurs en ligne, en direct dans quelques instants, juste après ce titre de Ben L'Oncle Soul, I Got Home, dans Priorité Santé sur RFI. I got everything I need, you know I got home. I got everything I want, you know I got home. I got home, baby, babe, I got home. Put your hands together, please, you know I got home. Move your head and tap your feet, you know what I want. I got home, baby, babe, I got home. I got home. Up to you just for being a crowd. I can be myself again in the merry-go-round. When all you gotta do is to be in the now. You got soul, babe, real soul, babe. Gazing at your smile as you sing along and calling out the name of your favorite song. I'll keep you satisfied, but it won't be for long. I'm excited. Priorité santé sur RFI, on parle aujourd'hui du glaucome et de la cataracte, deux maladies qui affectent la vision, la santé de l'œil, toujours avec le docteur Christophe Orso, responsable de l'unité fonctionnelle d'ophtalmologie à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. On part pour la République centrafricaine tout de suite, c'est à Bangui qu'on retrouve Junior. Junior, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
Bonjour monsieur.
Vous appelez au sujet de votre fils, il a 6 ans aujourd'hui, et rapidement après sa naissance, les médecins et vous-même avez constaté que quelque chose n'allait pas au niveau de ses yeux. Qu'est-ce que vous avez observé avec votre épouse, Junior?
Oui, disons que c'était nous, au niveau de la maison, c'était mon épouse qui a d'abord observé qui avait des opacités bilatérales au niveau des yeux de l'enfant. Mmh. Et donc, elle m'a alerté et puis je l'ai examiné moi-même. J'ai remarqué qu'il y avait des opacités. Et donc, j'ai décidé qu'on puisse l'amener pour une consultation.
Oui.
Et on a confirmé le diagnostic de cataracte congénitale bilatérale.
Donc, cataracte chez un tout petit bébé. Votre petit garçon a été opéré. Comment ça s'est passé?
Il n'a pas tout de suite subi l'intervention parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de... Il y avait un spécialiste, mais il n'y avait pas un...
Plateau technique
anesthésiste.
D'accord.
Il n'y avait pas d'anesthésiste pour faire l'anesthésie chez les enfants au niveau du service d'ophtalmo. Et donc, on a dû attendre 2 ans et demi pour l'amener au niveau de Cameroun, précisément à Yaoundé, où il a subi une intervention chirurgicale. Mmh. Et on a fait une ablation de ces cristallins.
D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des soins ou des choses particulières à faire pour la santé des yeux de votre fils? Comment est-ce qu'il va?
Il est obligé de porter ses lunettes déjà régulièrement.
Oui.
Parce qu'à tout moment, on part régulièrement en consultation tous les 6 mois.
Oui.
Et on fait des examens à l'occasion de ces consultations. Et de temps en temps, on passe aussi des collyres qu'on puisse lui mettre dans les yeux.
D'accord. Est-ce qu'il y a une autre opération qui est prévue pour votre fils?
Tout à fait. Sur les recommandations du médecin, elle nous avait clairement expliqué qu'il fallait attendre autour de 7 ans. Quand l'enfant va avoir 7 ans, en quelques mois, on va l'amener pour une seconde intervention chirurgicale.
Là, donc vous allez retourner au Cameroun pour ça, c'est ça?
Là, maintenant, toutes les conditions sont réunies à Bangui.
Ah.
Mais bon, de toute façon, j'aurai quand même l'avis du médecin qui lui a fait l'intervention
D'accord.
au milieu.
Il continue de le suivre. Junior, on écoute la question que vous souhaitez poser au docteur Orso. Je vous en prie, allez-y.
Ok, merci. Alors, j'ai 2 questions à poser à ce sujet.
Allez-y.
Premièrement, je voudrais savoir qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de ces cataractes congénitales bilatérales. Alors que tout le bilan prénatal avait été réalisé et qu'il n'y avait absolument rien du tout.
Alors, dans la majorité des cas, c'est des causes génétiques. En fait, ce sont des cataractes qui sont liées à une anomalie de développement du cristallin parce qu'il y a une mutation et que les deux parents sont porteurs d'un gène. Et c'est pour ça que ça apparaît comme ça tout d'un coup chez un enfant, avec un risque pour les enfants suivants.
On ne fait pas de test pour ce genre de choses.
Alors, on ne connaît pas encore les gènes. Le problème, il est là, c'est qu'on ne sait pas encore le diagnostiquer et la génétique n'est pas encore avancée de ce côté-là. C'est la grande majorité des cas. Il peut y avoir aussi des causes infectieuses, des causes pendant la grossesse, mais là, visiblement, ça ne semble pas être le cas.
Donc, Junior, ce que ça veut dire, c'est que même si vous l'aviez souhaité, même si vous aviez envie de savoir si votre enfant était en très bonne santé, il n'y avait pas les moyens. Aujourd'hui, la science ne permet pas de dépister ce genre de choses. Alors, ce n'est pas du tout parce que les services auxquels vous êtes adressés étaient incompétents, c'est parce que nulle part sur la planète, on est capable de le faire. Vous avez une autre question?
Je voulais juste réagir un peu par rapport à la réaction du docteur.
Oui.
Tout simplement parce que dans la famille, c'est un précédent. Il n'y a jamais eu un cas comme ça dans la famille. Donc, c'est la première fois que ça arrive, de toute ma connaissance. Donc, c'est pour moi une surprise.
Un étonnement. Oui. Mais c'est vrai qu'on peut avoir une maladie qui arrive, qui est d'origine génétique, sans qu'il y ait eu une expression dans la famille.
Oui, parce que... quand c'est récessif, c'est-à-dire quand il faut qu'une mutation sur les deux allèles d'un gène, chaque parent est porteur, mais il n'a pas de la maladie, il n'y en avait pas avant dans la famille, et puis malheureusement, les deux parents sont porteurs de cette mutation, et ça se développe.
C'est un malheureux hasard, on va dire.
C'est un malheureux hasard.
7 ans pour avoir une opération d'implantation du cristallin, c'est quoi?
C'est normal, parce que il y a des problèmes de calcul de la puissance de cet implant il faut mettre un implant qui permettra d'avoir une bonne vision à l'âge adulte et l'œil grandit avec l'âge. Donc, il y a des calculs qui sont un peu difficiles et on a tendance de plus en plus à implanter un peu plus tard pour tenir compte de cette croissance.
Voilà, merci beaucoup Junior. Très bonne journée à Bangui. Une auditrice à Douala au Cameroun qui s'appelle Courba, elle aussi est concernée par une cataracte congénitale. Elle a 30 ans, elle est myope également, elle est atteinte de myopie. Elle écrit sur WhatsApp qu'il faut que les objets soient très très près de ses yeux pour qu'elle puisse voir. Et elle demande si la cataracte a un lien avec la myopie, docteur.
Alors, oui, dans les cataractes congénitales, quand on opère, il va y avoir des modifications de la croissance de l'œil et souvent, ce sont des personnes qui vont devenir myopes. Et c'est pour ça qu'il y a en fait un lien, mais c'est des phénomènes de croissance. Quand il y a une mauvaise vision, il y a un développement plus grand de l'œil. C'est ce qu'on voit avec la myopie actuellement, les fortes myopies chez les enfants. Il y a des phénomènes d'images qui sont pas nettes, qui favorisent la croissance de l'œil. La question qu'elle posait, c'est est-ce que si on guérit la cataracte, on va guérir la myopie ? Malheureusement non, puisque l'œil est trop long et on ne pourra pas revenir en arrière.
Donc elle continuera à porter des lunettes.
Mais avec l'implant, on peut corriger, on peut faire comme des lunettes en mettant un implant.
Donc là, c'est quand même de la technologie, c'est peut-être une opération qui est un peu plus compliquée. En tout cas, pour l'instant, Courba, elle continue à porter ses lunettes.
Elle porte ses lunettes, oui.
Voilà. On part maintenant pour le Tchad.
RFI à N'Djamena, 100.2 FM.
Et c'est Vanessa qui nous a envoyé ce message sur le répondeur WhatsApp de Priorité Santé au 33 7 61 18 46 41. On l'écoute tout de suite.
Bonjour, Priorité Santé, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis Vanessa, j'habite à N'Djamena au Tchad. J'ai 24 ans. Alors je viens poser quelques questions concernant mon glaucome. La première question est de savoir, lorsqu'on perd la vue suite au glaucome, est-ce que c'est irréversible, c'est-à-dire que c'est mon cas, j'ai perdu la vue quelques années en arrière suite au glaucome, car j'ai été diagnostiquée du glaucome quand j'avais seulement que 12 ans et aussi longtemps que je prenais les traitements qui m'ont été donnés par les médecins, les médicaments, encore les gouttes comme Xalatan et autres, mais cela n'a pas marché, mais plutôt cela a rabaissé ma vue jusqu'à ce que je perde totalement la vue. Donc, alors si je ne vois plus rien du tout. Et est-ce que le glaucome est héréditaire? La troisième, peut-on avoir quelques signes ou bien peut-on savoir quelques signes qui peuvent nous orienter nous-mêmes que nous avons le glaucome? Et enfin, la quatrième question qui est très, très capitale pour moi est de savoir est-ce que deux personnes qui sont aveugles suite au glaucome peuvent se marier et espérer avoir des enfants clairvoyant. Merci beaucoup.
Alors, c'est question de Vanessa, qui est non-voyante, glaucome diagnostiqué à 12 ans. On a déjà répondu sur les symptômes, qu'il n'y avait pas vraiment de signe annonciateur. Maintenant, évidemment, on ne va pas dire à distance de Vanessa, vous ne verrez plus jamais, etc. Mais malgré tout, quand on a un glaucome qui a conduit à une cécité, est-ce qu'il y a moyen de revenir en arrière ?
Malheureusement non. Actuellement, on ne sait pas régénérer un nerf optique. On travaille là-dessus parce qu'il y a plein de pathologies dans lesquelles ça peut être indispensable, mais pour l'instant, on ne sait pas le faire. Malheureusement, on n'a pas de solution une fois que la cécité est arrivée.
Et sur l'hérédité, on imagine peut-être que Vanessa a rencontré quelqu'un qui, elle aussi, cet homme aussi, est malvoyant. Ils ont envie d'avoir un projet familial. Est-ce qu'il y a une hérédité ?
Alors, il y a une hérédité du glaucome congénital. Toutes les pathologies congénitales, dans 80% des cas, elles sont héréditaires. Alors, il y a plusieurs gènes, donc il n'y a pas nécessairement un risque que les enfants aient un glaucome, mais comme on sait qu'il y a un risque de glaucome congénital chez ces enfants, puisque les parents ont eux-mêmes un glaucome, on va le dépister très tôt. On va faire les premières consultations quasiment à la naissance. Il arrive qu'on opère un glaucome congénital au premier jour de vie.
Ça veut dire qu'à ce moment-là, on va favoriser l'évolution ?
Non.
C'est-à-dire,
non,
on va éviter, on va éviter, bien sûr, quand je dis ça, c'est oui. favoriser l'arrêt de cette évolution négative.
On va prendre en charge tout de suite, et comme elle le disait, on ne l'a diagnostiqué qu'à 12 ans, donc avec un glaucome qui devait déjà être assez avancé. Mm-hmm. Si on peut le prendre en charge très tôt, si on sait qu'il existe, on va le chercher, on va surveiller, et dès qu'il apparaît, on va traiter. Et ce sont des enfants qui peuvent être totalement bienvoyants.
Alors, à présent, c'est dans l'ouest de la France, à Rennes, qu'on retrouve Fabrice. Fabrice, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez 48 ans, vous aussi, Fabrice. Vous avez eu une cataracte très jeune. Est-ce que vous connaissez les causes de cette maladie de l'œil chez vous ?
Oui, c'est une maladie génétique qui s'appelle le syndrome d'Alport, qui attaque les yeux, les oreilles et les reins. Et en fait, c'est un gène défectueux, je crois que c'est le gène 4.
Alors, vous avez été opéré pour cette cataracte ?
Oui, tout à fait, parce que en fait, ce gène défectueux, il est aussi atteint sur les yeux, et donc, en fait, ça déforme le cristallin de l'œil, en fait.
Parce que vous aussi, vous avez d'autres symptômes que les symptômes oculaires ?
Ah oui, oui, je suis en fait en insuffisance rénale terminale depuis l'âge de 20 ans. Ouais. Et aujourd'hui, traité par traitement de suppléance par dialyse, je suis en attendant une greffe. Mmh. Et puis, je suis appareillé aussi depuis l'âge de 18 ans. Ouais, c'est vraiment une maladie génétique qui apparaît à la puberté, plutôt sur les sujets masculins.
Mmh. Alors, vous avez été opéré. Est-ce que vous avez eu des séquelles de cette opération ou est-ce que ça s'est passé très bien ?
Alors, les deux opérations ont été un petit peu compliquées, mais en tout cas, au final, le rendu final a été vraiment parfait. J'ai plus de lunettes, plus de lentilles, donc voilà.
Et ça remonte à plusieurs années, hein, l'opération, c'est ça ?
C'est ça, ça remonte à une petite dizaine d'années.
Et vous avez des questions, Fabrice, on vous écoute, je vous en prie.
Oui, c'était en fait, comme j'ai eu pendant plusieurs années des lunettes et des lentilles, je me posais la question pourquoi en fait on n'a pas plus rapidement proposé cette opération, en fait, la cataracte.
Mmh. Alors, pourquoi patienter avant d'opérer sur ce type de situation complexe, hein, comme on l'a compris avec Fabrice ?
Oui, on opère actuellement la cataracte quand l'acuité visuelle est trop basse. On n'opère pas à titre préventif. Mmh. Donc, on va attendre que la cataracte soit invalidante. Il n'y a pas un niveau d'acuité visuelle, c'est vraiment la gêne ressentie par le patient dans ses activités de tous les jours. On peut opérer très tôt quand la personne est très gênée par la lumière du fait du cristallin, on peut opérer avec une acuité de 9 dixièmes. Mais si on a une personne qui est une personne âgée, qui ne conduit pas, qui arrive à regarder la télévision, lire le journal, on ne poussera pas à l'opération. Donc là, tout dépend du degré de gêne et d'acceptabilité de cette cataracte et de cette déformation du cristallin.
En tout cas, Fabrice, vous avez vraiment ressenti le bien-être, l'amélioration après l'opération dans votre cas ?
Parce que moi, bon, déjà, je suis en traitement par dialyse, donc j'ai déjà ce traitement-là.
Ouais.
Après, j'ai les appareils auditifs, donc c'est toujours des appareils à gérer. Là, c'est vrai que mes lunettes ou mes lentilles, ben, à la fin de journée, j'étais fatigué avec les yeux, je ne supportais plus les lentilles. Et ça a été une révolution, en tout cas pour moi, ça c'était clair.
Bah, en tout cas, on vous remercie beaucoup pour ce témoignage extrêmement intéressant. On vous souhaite une bonne journée, merci pour votre appel. On a encore une question au sujet de la cataracte, c'est Alden de Brazzaville. Son père a été atteint de cataracte, lui il est âgé de 27 ans. Il souffre de photophobie et de sécheresse oculaire. Il précise d'ailleurs qu'il porte des lunettes pour se protéger du soleil. Alden a deux questions. Docteur Orso, d'abord, est-ce que la cataracte est héréditaire ? On en a parlé de ce facteur de l'hérédité déjà ?
Oui, alors, la cataracte sénile n'est pas héréditaire, mais là, on ne sait pas. Probablement, son père a une cataracte précoce et elle peut être héréditaire.
Alors, sur ces symptômes hein, cités par Alden, photophobie, sécheresse oculaire, est-ce qu'on va dire que ce sont des signes avant-coureurs ou pas forcément ?
Pas forcément. Non, pas forcément. Ceci dit, la photophobie peut être un signe de cataracte débutante, mais il y a beaucoup de gens qui sont gênés par une forte lumière pour différentes raisons, et ce n'est pas nécessairement une cause de cataracte. La sécheresse oculaire en elle-même peut donner des petites lésions de la cornée quand on a une petite kératite, on est gêné par la lumière. Donc il y a beaucoup de facteurs là, on ne peut pas répondre sans avoir vu
le patient. Et c'est précisément pour la capitale du Congo qu'on part tout de suite.
RFI à Brazzaville, 93.2 FM.
Et en ligne avec nous, professeur Freddy Nganga Ngabou. Bonjour professeur.
Bonjour Caroline, bonjour docteur Orso et bonjour aux auditeurs de RFI.
Bonjour monsieur.
Alors vous êtes ophtalmologue au CHU de Brazza, professeur à l'université Marien Ngouabi. Professeur Nganga Ngabou, dans votre service, est-ce que le glaucome et la cataracte constituent des motifs fréquents de consultation et de prise en charge ?
Ah oui, c'est les pathologies courantes qu'on rencontre dans notre activité quotidienne. La cataracte représente environ 12% de notre activité et le glaucome environ 7% de l'activité.
Alors, c'est fréquent en termes de consultation de prise en charge. Est-ce que c'est connu du grand public, de la population congolaise ?
De plus en plus, parce que les populations, ça part par des émissions comme vous le faites maintenant. Mmh. Avant, ils avaient parfois tendance à confondre des ptérygiens aux cataractes. Nous avons beaucoup de patients, surtout jeunes, qui viennent avec des ptérygiens, c'est des graisses qui montent sur la partie noire de l'œil, donc ils quittent la partie blanche qui monte sur la partie noire. C'est des petites tumeurs conjonctivales qu'on appelle des ptérygiens et ils viennent vous dire que nous avons une cataracte. Mais de plus en plus, avec la communication que nous faisons, ils en sont de plus en plus conscients.
Ça veut dire sur cette affection que vous venez de citer, la solution est assez simple en termes de prise en charge ?
Oui, tout à fait. Au début, on surveille. Et puis, à des stades un peu avancés, on peut faire des exérèses qui sont des interventions superficielles sur la surface de l'œil.
Alors, est-ce que pour autant, vous constatez qu'un certain nombre de diagnostics sont posés à des stades tardifs ? On va parler d'abord de la cataracte. Est-ce que vous voyez des patients arriver avec un cristallin vraiment dans un très opaque, très blanc et donc quasi visible à l'œil nu ?
Ah oui, il y en a encore assez fréquemment. C'est vrai que la chirurgie de la cataracte s'est beaucoup améliorée, la prise en charge s'est beaucoup améliorée, mais il y a encore des patients qui n'ont pas encore accès aux soins de qualité et qui viennent encore à des stades vraiment, vraiment, vraiment avancés de cataracte, qu'on appelle encore des cataractes tropicales. Hein. On en a encore.
Cataracte tropicale, on peut imaginer avec cet œil tout blanc, un peu comme dans des films. On voit ça aussi dans des films où on voyait des personnes qui arrivaient avec une situation assez critique. Mais j'imagine que ça peut s'opérer, tout ça.
Oui, tout à fait. Ça s'opère très bien et de mieux en mieux d'ailleurs.
Alors que pour le glaucome, là, quand on a un stade très tardif, ça devient extrêmement complexe, voire quasiment plus de solutions thérapeutiques.
Oui, c'est très délicat parce que plus de 80%, malheureusement, des patients arrivent à ces stades-là chez nous. Et des techniques de prise en charge, notamment la chirurgie, bien entendu, s'ils repentent au traitement, c'est bien. Mais il arrive surtout, souvent les cataractes africaines sont des cataractes qui sont liées à des tensions très très élevées.
Et
sont associés avec des tensions très très élevées qui répondent parfois plus au traitement, surtout à ces stades très avancés. Il faut opérer. Mais si vous opérez à ces stades très avancés, vous avez également le risque de perdre la vue. Donc, il faut bien discuter à ce moment avec les patients, lui présenter les avantages et les inconvénients de prise en charge à ces stades-là.
Il faut bien discuter. Je vais un petit peu vous titiller, hein, professeur. Encore faut-il trouver un ophtalmo à portée de la maison, parce qu'on peut imaginer que la plupart des spécialistes, ils sont concentrés dans les grandes villes, c'est-à-dire Brazza et Pointe-Noire.
Tout à fait. Et malheureusement, on parle de ce qui se passe plutôt à Brazzaville, mais quand on va en campagne, il nous arrive d'aller dans, à l'intérieur du pays et voir des patients, mais ils sont assez nombreux, ce qui malheureusement ne peut pas apporter de solution.
Est-ce que vous faites des consultations foraines ?
Oui. Il y en a eu une période où on en a fait plusieurs. On a fait presque, on a circulé presque dans tout le pays, dans tous les départements, avec une fondation qui a bien su s'engager à aider les populations.
Est-ce que la peur de l'opération, c'est encore quelque chose qui existe au sein de la population et qui écarte donc certains patients, même quand la chirurgie est indispensable ?
Alors, cette peur, il faut la relativiser parce que il y a 20 ans environ, quand j'ai commencé, les patients se disaient que la plupart des gens opérés perdaient la vue. Parce qu'à l'époque, on opérait encore en intracapsulaire et généralement, ça ne donnait pas de très bons résultats. Et du coup, les patients perdant la vue se disaient « Bon, mais le voisin a perdu la vue, pourquoi je me ferais opérer ?»
Oui, j'imagine.
Et d'autres, par contre, allaient même dans d'autres pays où il y avait une meilleure expertise et qui revenaient avec des meilleurs résultats. Ils se disaient « Pas question de se faire opérer au Congo. » Mais de plus en plus, avec les résultats que nous présentons, beaucoup, beaucoup maintenant arrivent à se faire opérer sur place sans se préoccuper et sans incident.
Alors, sans se préoccuper, on peut dire que pour la plupart des patients, il y a aussi une préoccupation majeure, tout simplement le porte-monnaie. Est-ce que l'aspect financier, là aussi, ça constitue un frein à la prise en charge ?
Ah oui, c'est un grand frein parce que si je repars sur les activités foraines que nous faisons, on se retrouve avec des milliers de patients qui viennent en consultation et parfois on a des volumes, parfois moindres à prendre en charge. Et donc, tous ces patients, ils restent sans opération, ceux qui n'ont pas bénéficié de ces activités-là. Et on sait qu'ils sont très, très nombreux en attente d'opération. Et bien entendu, quand nous avons des activités gratuites, nous voyons que l'affluence est près de 30 fois plus élevé qu'à notre activité payante quotidienne.
Donc, alors, justement, vous avez les moyens de multiplier ces activités, on va dire, sous une forme de bénévolat médical ?
Le personnel, il est présent, mais il faut disposer d'un organisme qui va accompagner.
Bien évidemment.
Donc, s'il y a des volontaires à nous appuyer, nous avons des équipements, même des équipements mobiles pour opérer partout dans le pays, mais il manque les moyens. Donc, parfois, il y en a qui s'engagent, des organismes qui s'engagent, mais à certains moments, il n'y en a pas. Et puis, bon, voilà, on ne fait rien.
Qu'est-ce qu'on peut encore faire passer, professeur Freddy Ngangangabou, comme message pour améliorer la prise en charge, notamment pour certaines populations qui restent à l'écart des soins, y compris en raison de fausses croyances ?
Alors, en ce qui concerne la cataracte, ils doivent savoir que la cataracte s'opère et avec des très, très bons résultats.
Oui.
Donc, ceux qui peuvent prendre en charge leurs soins, puisque on n'a pas d'assurance maladie, c'est l'individu qui paye. Ceux qui peuvent prendre en charge leurs soins, qu'ils se fassent opérer sans hésitation, les résultats sont de mieux en mieux, sont de plus en plus meilleurs. En ce qui concerne le glaucome, par contre, ils arrivent assez tôt en consultation. Comme on a su le dire, le glaucome, il est héréditaire, notamment ceux qui ont des parents glaucomateux, qui se fassent dépister parce que c'est vrai que, comme l'a souligné le docteur Orso, la presbytie nous aide à dépister les patients autour de 40 ans, mais tous ne veulent plutôt pas porter des lunettes. Donc, si vous avez déjà un parent qui a un glaucome, vous avez le glaucome dans la famille, faites-vous dépister. Ça permet déjà... d'éliminer certains cas de découvrir certains cas de glaucome et de les prendre en charge au lieu d'avoir autant de cas qui arrivent assez tard ou alors de façon générale ceux qu'ils peuvent qu'ils prennent une consultation à 40 ans. C'est l'âge où c'est l'âge habituel du début du glaucome.
Donc on va mieux réussir à le dépister de façon précoce.
Tout à fait, oui.
Merci beaucoup, professeur, pour toutes ces explications. Docteur Christophe Orso, on vous retrouve pour la conclusion de notre échange. On a bien perçu le message pour améliorer, mieux sensibiliser sur le dépistage du glaucome, c'est très important. Est-ce que vous avez le sentiment, docteur, qu'aujourd'hui, ce problème de santé oculaire, il est suffisamment connu, qu'on communique suffisamment ou qu'il faut encore plus parler du glaucome et de son dépistage ?
Je crois qu'il faut... toujours en parler, en l'évoquer. Même si on a fait beaucoup de progrès, il y a encore des patients qui ne comprennent pas l'importance de la surveillance, du traitement régulier. Et je crois que on n'a jamais fini dans ce genre de choses sur une pathologie qui est sécitante, non traitée, alors qu'elle se traite bien, on a toujours intérêt à reprendre les mêmes messages du dépistage à 40-45 ans, de la surveillance, de l'importance du traitement, parce qu'on voit que malheureusement, il y a quand même de temps en temps des échappements.
Ça veut dire qu'on va encore vous retrouver dans une prochaine émission prochainement, Dr Orsou. Un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. On va parler de l'accès aux médicaments dans quelques instants, mais tout d'abord, RFI vous propose de choisir, de voter, choisir parmi les finalistes du prix RFI Découverte. Et ils sont 10, vous allez les entendre pour juger, pour apprécier dans l'émission. Et ensuite, voter. Pour ça, vous pourrez retrouver le lien sur la page de Priorité Santé. Alors, cette première découverte, hein, c'est Yewe Yeton, artiste béninois, rappeur 10 ans de scène derrière lui. Il s'est lancé en solo l'an dernier avec un retour aux sources et on l'écoute, Yewe Yeton avec V et V.
Rap roue jeté, bon don ma roule con, mano comme nous d'aïdouté, mano ba roule con, flotte, mano d'où nous pour nous m'aider, mano bon nous comme nous m'aider, nous qu'on l'a gagné, si tu es technique, qui est au rouna mea, ouais nous d'où, bon nous d'où, bon d'où, bon ma globe, bon tu clôt, tu globe, qui dit bon globe, la gada, notre aïe bidi pelle, bon nous voyez la gada, nous d'où, voilà, son yéji dit chanta, nous vide au pelle, on l'a, nous d'où, vain, vain, là, qui dit d'où, et flé, nous qu'on a ou vite, radio, son nous gué, à mal, yam, ton, nous vant à cagna, nous bique, mémé, à d'or, à nous, nous, ouais, pour les bique, mémé, aide, mémé, rollo, milo, mignon, qui les bide, mémé, non comme il mène, nous d'où, 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 d'où,
sujet qui revient régulièrement dans l'actualité médicale en France. Il s'agit des pénuries de médicaments. On va parler maintenant en particulier des ruptures d'approvisionnement des traitements en psychiatrie. Et pour en parler, avec nous en ligne, professeur Antoine Pellissolo. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de psychiatrie du CHU Henri Mondor de Créteil en région parisienne. Vous alertez en particulier sur la rupture de quel médicament qui est prescrit pour quel type d'affection en santé mentale ?
Alors là, vraiment, depuis quelques semaines, nous avons un gros problème avec un des médicaments antipsychotiques, donc qui soigne la schizophrénie et le trouble bipolaire. Il s'appelle la quetiapine. C'est un médicament assez utilisé dans cette indication, enfin dans ces indications vraiment importantes. C'est des maladies graves, hein, les psychoses. Et donc, ce médicament était en tension depuis quelques semaines ou quelques mois, comme bien d'autres, malheureusement. Mais là, on a l'impression qu'il y a une rupture quasi complète, et en tout cas, les patients ne trouvent plus de quétiapine dans les pharmacies.
Ça veut dire qu'on ne les trouve plus en officine de ville, on ne les trouve plus non plus en milieu hospitalier en ce moment ?
Alors ça dépend des hôpitaux. Nous, par exemple, à Mondor, on a encore des stocks en pharmacie parce qu'il y a toujours un peu d'avance, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et effectivement, le vrai problème, ce sont les officines de ville. Et la plupart des pharmacies n'ont plus n'ont plus de stock et sont très peu approvisionnés. Donc c'est un vrai problème pour les malades à qui on a dû commencer en fait à remplacer leur traitement.
Alors précisément, il y a un point très important à souligner, c'est qu'en santé mentale, évidemment, peut-être encore moins que pour d'autres choses, les molécules ne sont pas interchangeables parce que ça peut entraîner des variations très importantes, voire même des décompensations. Pourquoi c'est si pointu en psychiatrie ?
Alors parce que chaque molécule en fait a un profil sûrement un tout petit peu différent, c'est pas des similaires à chaque fois, et dans la même famille, par exemple des antipsychotiques, on en a 4 ou 5 aujourd'hui, et elles ont chacune ces molécules des effets différents, aussi bien sur les effets thérapeutiques que sur les effets secondaires, parce que très souvent les problèmes qu'on a, c'est des effets secondaires qui peuvent être gênants d'un patient à l'autre, c'est jamais les mêmes, c'est pas prédictible, et c'est pour ça que souvent on tâtonne longtemps avant de trouver le bon traitement, et une fois qu'on l'a trouvé, ben, c'est très compliqué d'en trouver un autre quand il y a besoin. Et d'ailleurs, on a un problème en France c'est peut-être variable d'un pays à l'autre, mais c'est qu'on a assez peu de médicaments en fait qui sont validés par les autorités, beaucoup moins que dans d'autres pays qui acceptent plus facilement nombre plus élevé de traitements antipsychotiques notamment.
On peut comprendre des ruptures d'approvisionnement quand il y a un pic épidémique, on peut comprendre aussi quand il y a certains labos qui ne fabriquent plus parce que ce n'est plus rentable, enfin on peut le comprendre, pas forcément le justifier, mais au moins l'entendre. Qu'est-ce qui explique cette crise de l'approvisionnement pour cet antipsychotique, professeur ? Est-ce que vous avez des éléments de réponse ?
Alors, on n'en avait pas initialement, puisque de toute façon, on nous informe très peu de ces sujets-là maintenant. Donc là, avec un petit peu les alertes qu'on a lancées, j'ai pu avoir l'information que, en fait, cette molécule n'est produite que par un seul fabricant dans le monde, qui centralise toute la fabrication et qui a des problèmes, visiblement, sur les chaînes de fabrication. En tout cas, ils sont en défaut. Et donc, ça impacte le monde entier, hein, probablement. Mais avec un problème pour la France, ce qui est qu'on a tendance à payer un peu moins cher les médicaments que dans les autres pays, pour des raisons utiles, hein, pour la sécurité sociale, mais en contrepartie, ça veut dire que les fabricants ou les laboratoires qui commercialisent ont tendance à privilégier d'autres marchés sur lesquels ils ont plus de bénéfices. Donc l'impact là, pour l'instant, c'est que la production est très très réduite, et donc on a surtout le problème majeur pour les patients et les prescripteurs, c'est qu'on n'a pas de visibilité en fait sur la durée de cette rupture, parce que dans ce cas-là, bon, ça nécessite une adaptation, mais s'il faut, par exemple, changer vraiment de médicament, ça prend normalement des semaines et des mois.
Donc ça veut dire que vous n'avez aujourd'hui aucune capacité à anticiper la situation, ça veut dire que les labos n'ont pas du tout communiqué, vous avez été mis devant le fait accompli.
Oui, c'est ça, malheureusement. Alors, il y a quelques années, quand il y avait quelques ruptures, on était souvent informés. Maintenant, on ne l'est plus, parce que de toute façon, c'est tellement récurrent et ça concerne des centaines de molécules que, en effet, on n'a plus les informations, en tout cas, rapidement. Et ça pose des vrais soucis, parce que, encore une fois, c'est un médicament essentiel. Pour des médicaments qu'on peut remplacer facilement, c'est moins gênant. Mais là, on est vraiment dans un cas grave, parce que une maladie qui décompense, hein, c'est un risque d'aller très mal, un risque d'hospitalisation et parfois même des conséquences qui peuvent être fatales, parce que c'est des maladies qui peuvent aggraver le risque de suicide. Donc ce sont vraiment des ressources essentielles. Et la bonne solution, ça serait qu'on nous dise, bon, clairement, c'est bloqué pendant des mois, et en fait, c'est comme ça qu'on va faire, hein, comme par précaution, il vaut mieux qu'on anticipe en disant, on cherche d'autres solutions. Mais d'ailleurs, l'agence du médicament qui a communiqué récemment, elle nous dit, essayez de trouver une autre solution, tout en nous disant que d'autres psychotropes assez proches sont aussi en tension. Donc c'est quand même pas très rassurant, parce que les solutions alternatives sont peu nombreuses.
Cette question des pénuries de médicaments qui revient régulièrement dans l'actualité. Un grand merci à vous, hein, professeur Pellissolo, pour toutes ces explications. Et Priorité Santé, c'est fini. Merci à toute l'équipe, Ophélie Lassen, Louise Kaledek, Talim Pouo, Victor Hull et Didier Chérouz à la réalisation. Demain, à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, nous allons parler de l'accès aux soins qui peut être freiné par les préjugés liés au handicap. Les questions matérielles conduisent au découragement, parfois même au renoncement de soins. Comment faire face ? On se donne rendez-vous à 9h10, temps universel. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.